Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vous le savez, les enfants s'étonnent de tout. Et comme l'étonnement est l'une des sources à laquelle s'abreuvent les philosophes, les enfants sont donc des philosophes en puissance. Pour Montaigne, on a grand tort de peindre la philosophie inaccessible aux enfants. Et leurs grandes interrogations existentielles donnent parfois le tournis aux adultes. Pourquoi meurt-on? Comment est né notre monde? Pourquoi ne peut-on pas arrêter le temps? Pourquoi je rêve la nuit? Ce matin, nous vous délivrons quelques outils pratiques et théoriques pour vous aider à leur répondre, à engager une joyeuse conversation philosophique, bref, à cultiver l'art du doute à une époque ultra polarisée dans ses certitudes. Ce matin, place aux enfants qui peuvent poser leurs questions à nos invités professeurs de philosophie. Et si vous vous demandez comment aborder certaines questions avec eux, contactez-nous également au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'application France Inter. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
De Femme Actuelle qui a conservé son âme d'enfant et qui posera, comme d'habitude, des questions pertinentes, je l'espère.
Et l'art du doute, j'adore.
Bonjour Eric Libiot.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses presque vues vers 10h40?
Ben écoutez, je vais parler de mon philosophe préféré, Pierre Bac.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Fanny Bourillon.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie et la philosophie de l'art à l'école des Gobelins à Paris et vous avez fondé les ateliers Philomousse, les moussaillons de la philosophie avec le centre Pompidou en partenariat avec l'éducation nationale et vous publiez chez First 50 activités pour philosopher avec ses enfants. Bonjour Aïda Ndiaye.
Bonjour Ali.
Vous êtes normalienne, agrégée de philosophie, vous enseignez la philosophie dans un lycée de la région parisienne et vous avez écrit à destination des tout-petits « Je découvre la philosophie » publié chez Nathan. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie et vous avez publié chez Flammarion « Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi ». Fanny Bourillon, il n'y a pas d'âge pour philosopher?
Il n'y a pas d'âge, effectivement, si on s'en réfère à cette fameuse phrase d'Épicure. Voilà, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour philosopher. On peut penser qu'effectivement, les plus jeunes comme les plus vieux, et à tout âge, on peut philosopher. Pourquoi? Parce que la philosophie, c'est avant tout une réflexion sur le monde. Et on pourrait penser, on a tendance à penser que c'est un bavardage, que parfois même c'est un discours qui est abstrait et qui ne concerne que des spécialistes. Et pourtant, si on s'en réfère justement à la philosophie antique et aux philosophes de l'Antiquité, la philosophie c'était avant tout un exercice pratique et spirituel qui consistait avant toute chose à développer une conduite pour la vie humaine et à savoir simplement comment agir vis-à-vis des autres. Et donc c'est toujours... La philosophie est toujours liée en un sens à la politique, est toujours liée au vivre ensemble, et est toujours liée aussi à notre rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a un lien aussi entre la philosophie et l'amour.
Aïda Ndiaye.
Oui, ce qui est au cœur de la philosophie, en effet, dès l'Antiquité, c'est le questionnement et c'est la discussion. Le père de la philosophie, Socrate, l'a bien montré. Et de ce point de vue-là, on sait que les enfants sont avides de questions, parfois d'ailleurs trop. Ça peut être, quand ils nous poursuivent avec leurs questions, un peu gênant. Mais précisément, je pense qu'il faut se laisser, enfin, essayer de dégager du temps. Donc là, ça tombe bien, c'est les vacances. Pour se laisser saisir par ces questions qu'on a peut-être, nous, désappris à se poser et qui sont au cœur de la réflexion philosophique. La réflexion philosophique, c'est questionner. Et donc, il faut partir de ces questions des enfants pour essayer de les conduire, justement, après, dans la construction d'une pensée, de montrer comment est-ce que les questions peuvent rebondir, comment est-ce qu'il peut y avoir une multiplicité de réponses sur un même problème. Et on peut, du coup, effectivement, je pense, dès le plus jeune âge, notamment dès qu'ils sont scolarisés, dès qu'ils parlent et qu'ils ont une pensée à peu près construite, vraiment philosopher avec eux.
Gilles Verviche.
Oui, ben on pose souvent la question, en fait, les parents notamment, pourquoi est-ce qu'on commence en France la philosophie qu'en terminale, on devrait commencer avant. Et effectivement, moi je remarque qu'à la limite, les enfants, les plus petits enfants, peut-être entre 4 et 10 ans, sont en fait plus philosophes que les adolescents. Quand ils sont adolescents, il y a un côté j'ai tout compris à la vie, je me pose plus trop de questions, ils sont un peu blasés, faut tout déconstruire. Alors que quand ils sont enfants, ils se posent des questions métaphysiques de fou, quoi. Moi, j'ai une gamine de 4 ans qui a vu... j'ai emmené voir une expo sur Pompéi avec le volcan et tous les gens qui meurent. Elle dit « Ouais, c'était super, j'adore la mort. » Évidemment, on ne veut pas dire qu'elle adore la mort. Et que ça lui pose des questions. Elle n'arrête pas de parler de la mort. Alors c'est... Et puis, plus tard, il s'en pose plus. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment... se posent ces questions-là et c'est bon moment pour les attraper à ce moment-là. Quoi.
On abordera la question de la mort tout à l'heure. Aïdan Diagne.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que Gilles vient de dire sur les adolescents. Cela dit, parce que pour le coup, moi j'ai un fils qui est adolescent, je trouve que c'est aussi un âge où justement... surtout aujourd'hui, avec l'irruption de toutes les questions de genre, de race, évidemment du terrorisme, de la violence, ils sont quand même à la croisée de tellement de discours alors peut-être pas effectivement un peu plus âgés, ou de toute façon ils vont commencer la philosophie à l'école, mais au collège, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire pour les accompagner justement dans vraiment l'appréhension du monde qui commence aussi à habiter seul, parce que c'est un âge aussi où ils commencent à être seuls, à se déplacer seuls, à se libérer des parents, et du coup ils sont confrontés à de nouvelles questions, et à ce moment-là je trouve que ça rebondit de manière qui est aussi intéressante et à mon avis aussi tout à fait faisable.
Fanny Bourillon, très souvent nous sommes désarçonnés, pris ou dépourvus face à leurs questionnements simples et profonds à la fois.
Oui, en fait il nous rappelle à une certaine humilité. Parce que les questions que posent les enfants, et surtout en ce qui concerne par exemple le temps, si un enfant vous demande qu'est-ce que le temps, pourquoi on meurt, on est très désarçonné et c'est normal. Et les philosophes le sont tout autant. Et c'est aussi la figure de Socrate qui lui-même allait questionner ses interlocuteurs en disant moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Il faisait un aveu d'ignorance, ou un aveu d'impuissance plutôt, vis-à-vis de la philosophie qui certes aide à penser et aide à penser le monde, mais il y a une certaine impuissance dans le langage à répondre à certaines questions. Alors comment on fait ? Eh bien, on trouve évidemment des moyens déjà de définir les mots. Ça commence comme ça, la philosophie. Donc avec les enfants, c'est ce qu'on fait. Lors des ateliers, c'est ce que je fais toujours. Donc quand je pose une question, je leur demande déjà d'essayer de définir les mots, d'essayer de trouver aussi à quoi s'oppose un mot et quelles sont les distinctions. Par exemple, sur l'atelier sur l'amour, on réfléchit aux amours, au pluriel, donc aux différentes façons d'aimer. Et on pense, par exemple, à l'amitié, ce qui, pour les adolescents, est toujours un petit peu plus facile. Et on va faire des distinctions. Et puis ensuite, avec les enfants, quand ils sont petits, c'est bien de faire référence à des contes, à la littérature jeunesse, à tout ce qui peut aider un enfant à se mettre à penser.
La qualité qui les rend aptes à philosopher, c'est l'émerveillement. Je pense à cette phrase d'Aristote, hein, la philosophie naît avec l'étonnement et l'émerveillement, et les enfants sont dotés de cet émerveillement.
Oui, ils observent. Ils observent
de cet étonnement.
Oui, ils s'étonnent, ils posent des questions, c'est vrai que c'est tout à fait naturel pour eux de poser des questions, et nous, on a tendance, adultes, en grandissant, à affirmer. On affirme, et plus on affirme, plus on prend aussi les choses au sérieux. Et les enfants, quand ils posent des questions, ils aiment aussi poser des questions rigolotes. Dans les ateliers, on s'amuse beaucoup parce que les questions, elles viennent comme ça, donc elles sont fulgurantes aussi. Mais tout comme leurs intuitions peuvent être très fulgurantes sur certains sujets, et des sujets aussi très sérieux. Donc oui, il y a une nature dans l'enfance qui est à l'émerveillement, à la contemplation.
Aïdan Diaye.
Oui, je pense que cet étonnement vient aussi du fait que les enfants petits expérimentent plein de choses pour la première fois. Donc ils sont confrontés aussi à plein de situations nouvelles. Donc Fanny parlait de l'amitié. Donc par exemple, la première fois que les enfants ont des chagrins d'amitié, c'est terrible en fait. Et ils sont confrontés à toutes ces expériences nouvelles. Et on pourrait dire qu'ils sont aussi en permanence en pleine conscience en fait. Ils ont une perception du monde qui est du coup pas du tout brouillée par les préoccupations qui sont les nôtres au quotidien. Donc ils voient les choses en fait beaucoup plus. Et ça rend d'ailleurs aussi, je pense, certaines choses beaucoup plus faciles. Le rapport à la nature, par exemple, pour les rendre sensibles à la beauté du monde, je pense qu'ils sont beaucoup plus à même de percevoir, je sais pas, la beauté des couleurs de l'automne, là par exemple, puisque c'est la saison, que nous qui traversons la tête baissée sur notre téléphone les magnifiques parcs parisiens.
Justement, j'ai eu une proposition cette semaine lors d'un atelier de philosophie sur la nature où on se demandait quelle était la place de l'humain dans la nature et comment il fallait penser la nature aussi pour la respecter davantage ou pour vivre en accord avec la nature. Et un jeune participant a proposé dans l'atelier créatif un collage de feuilles et il a écrit en dessous « prendre le temps de contempler la nature ».
Gilles Verviche.
Ben oui, je pense que nous, grands, c'est un peu l'histoire des ados blasés. On a une expérience, des habitudes qui nous donnent certaines connaissances pour nous orienter dans le monde. Mais effectivement, du coup, par manque d'expérience, les enfants sont plus aptes à s'étonner. Je pense à un passage, Bertrand Russell, on parle dans La Conquête du Bonheur, en disant que qui avait eu un enfant de 2 ans qui s'était promené dans la campagne et qui était resté 2 heures à regarder le sol, la terre, et avoir l'air tout excité en regardant l'herbe, alors qu'un adulte passe dessus sans trop se poser de questions. Donc effectivement, c'est le moment d'en faire.
Fanny Bourillon, l'idée de votre livre, c'est d'aider les enfants à affronter le monde peu réjouissant dans lequel ils sont plongés en ce moment.
Oui, je peux pas dire, je serais bien incapable de dire le contraire. Parce que il y a un certain nombre de choses difficiles en ce moment. On m'a posé la question parfois, est-ce qu'il faut philosopher avec les enfants? Est-ce que plus que jamais il faut philosopher avec les enfants? Ça, c'est une question un peu plus inconfortable, parce que je pense qu'il y a eu un certain nombre de périodes dans l'histoire qui ont été troubles comme celle-ci. Mais évidemment que face à la crise climatique, par exemple, les enfants, ils sont très sensibles. Je le vois dans les ateliers qui portent sur la nature. Ils sont très au courant aussi, très informés. Aussi parce que on est à l'ère de l'information, des réseaux sociaux, des outils technologiques, etc. Et ils ne sont pas du tout à l'abri de la masse. Et quand je dis masse, c'est aussi la confusion qui va avec d'informations qu'ils reçoivent et qu'ils ne peuvent pas tout à fait traiter. Déjà, nous, on a énormément de mal à traiter les informations que l'on reçoit, à les vérifier, à prendre le temps aussi de les vérifier. C'est encore une question de temps que l'on se donne, parce que tout est immédiat, qu'il faut, il faut sans cesse être dans le temps et dans l'instant des news, des nouvelles. Voilà, les enfants...
Aïdan Diaye.
Oui, je suis d'accord. Il y a effectivement... moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont confrontés... En fait, c'est qu'on peut pas savoir à quoi ils vont être confrontés comme information. Ce matin, j'entendais une interview d'une mère qui emmenait son enfant à l'école, je sais pas, au centre de loisirs ou là pendant les vacances, et qui disait qu'elle voulait pas lui parler de l'attentat pour la protéger. Et je comprends totalement ce réflexe chez un enfant petit de 4-5 ans. Le problème, c'est que c'est impossible de savoir dans quelle mesure est-ce que ils vont le savoir par l'école. En fait, il y a des enfants dont les parents, et moi ça m'arrive d'ailleurs aussi, écoutent la radio ou regardent les news avec leurs enfants, et donc du coup qui savent tout en fait.
Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, précisément, l'actualité, vous en parliez à l'instant, la crise sanitaire notamment qui dure depuis des mois, tous ces enfants qui nous voient masqués, on ne peut plus même communiquer avec eux, ne serait-ce que par l'expression de notre visage. Le drame de Conflans, vous l'évoquiez à l'instant. Les parents sont quand même assez démunis. C'est vrai que les ateliers, et je crois avoir vu plusieurs, s'étaient énormément développés à l'époque des attentats de 2015. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux parents, parce que je pense à eux d'abord, avant même de pouvoir répondre aux enfants, dans ce contexte particulier?
Je pense que dans ce contexte particulier, il est question de parler aux enfants de la question de la différence. En quoi, qu'est-ce que ça nous enlève? Et les enfants sont les premiers à comprendre ça. Qu'est-ce que ça nous enlève que quelqu'un soit différent de nous? Voilà. Les enfants sont les premiers à comprendre que rien, absolument rien. Et donc à embrasser plutôt les richesses. Et c'est vrai que les ateliers de philosophie, puisque ce sont des ateliers qui se font aussi en groupe, ce sont des petites communautés de recherche, des petits, des groupes. C'est vraiment un ensemble démocratique, les ateliers de philosophie. Donc chacun s'écoute. C'est d'abord l'écoute qui est privilégiée. Et puis, écoutant les autres, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec eux et que ce n'est pas bien grave. En fait, il suffit de le dire. Et donc, c'est en fait l'atelier de philosophie et la philosophie pour enfants privilégient le dialogue et valorisent le dialogue.
Aïdan Diaye.
Alors là, je pense dans la situation actuelle, pour les parents qui sont un peu démunis, moi je pense qu'il faut essayer de voir avec l'école ce qui va être fait, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des trucs, et les enfants en fait... En l'occurrence, pour cet événement-là, je pense qu'ils savent, en fait, ils font des exercices attentat-intrusion, ils ont vu, alors pour les un peu plus grands, mais ceux qui ont 8 ans, ils ont vu les militaires devant leur école pendant quasiment un an, donc ils savent très bien ce que c'est que le terrorisme. Donc moi, ce que je ferais, je pense, c'est d'essayer de voir avec l'école ce qui va être fait, ce qui va être dit, et de savoir ce que l'enfant sait. Alors là, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'ils sont en vacances, donc a priori, si on lui dit rien, il sait pas grand-chose. Mais Il me semble qu'il faut vraiment au sein du foyer, quoi, essayer de partir de ce que c'est l'enfant, de savoir ce que ça suscite chez lui comme émotion. Je pense qu'il faut pas masquer non plus ses propres émotions, en fait. Donc il s'agit pas de terroriser les enfants, mais voilà, si on est triste, si on a peur, il faut savoir le dire aussi, parce que moi il me semble que c'est vraiment ça qui fonctionne aussi dans beaucoup chez les enfants, c'est développer cette empathie en discutant et en partageant ses émotions. Et en fait, justement, sur des questions de tolérance, de rapport à l'autre, le fait de montrer que adulte, on n'a pas toutes les réponses, qu'on a aussi des émotions difficiles, qu'on peut être triste parce qu'il y a des attentats ou parce qu'on a un chagrin d'amour, par exemple, aussi, ça, je pense que c'est important, et ça apprend à l'enfant aussi à accueillir ses propres émotions et à accueillir celles de ses camarades, en fait.
Gilles Verviche.
Oui, je pense qu'il y a différentes choses. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord que finalement, comme on nous dit après ces événements, que tout est une question d'éducation, plus on en parle jeune, sans doute, et mieux c'est. Effectivement, des ateliers qui consistent finalement à éduquer un peu les enfants à la citoyenneté, en instaurant des règles du dialogue, en apprenant les uns à s'écouter, on se passe un bâton, etc. Enfin voilà, apprenant à écouter les autres. C'est bien. Ensuite, effectivement, la tolérance, le respect de la différence. Ce qui est bizarre avec les enfants, c'est qu'ils sont pas sensibles, me semble-t-il, aux mêmes différences que les adolescents ou les adultes. Voilà, c'est-à-dire les différences classiques de la société, la couleur de peau, par exemple, peu importe. Donc, ils sont très tolérants d'un côté, puis d'un autre, ils vont vite montrer du doigt celui qui est un peu différent. Donc, effectivement, c'est pas mal de travailler là-dessus.
Fanny Bourillon, vous. Allez-y, pardon, Gilles ouais. Verviche.
Ouais, juste, non, je me posais une question, on parlait d'émerveillement il y a 30 secondes, enfin, il y a une minute, et je sais pas s'il faut non plus trop creuser dans la réalité du monde horrible tel qu'il va. Enfin, je pensais à La vie est belle, là, de Benigni. Je sais pas s'il faut trop tôt non plus, enfin, faut les laisser en parler, effectivement, etc., mais faudrait pas non plus détruire avec toute cette réalité l'émerveillement qui fait ce qu'on avait dit, la qualité de l'enfance.
Fanny Bourillon, vous abordez dans votre livre la question suivante. Est-on plus libre à mesure qu'on est plus tolérant?
Oui, il y a un lien entre la tolérance et la liberté. Parce que on accueille, en accueillant la liberté des autres, on se garantit à soi-même aussi d'être plus libre. Donc c'est aussi un rempart contre l'intolérance que de porter les valeurs de la liberté.
Dans les ateliers philosophiques que vous animez avec les enfants, vous constatez que les enfants sont capables de penser ensemble, dans la joie, en dépit de leurs différences.
Absolument. Chaque atelier est unique, mais à chaque fois, on observe la même chose, c'est-à-dire un véritable plaisir déjà à être là. Et avoir un temps qui leur est donné pour réfléchir à des choses qui les concernent directement. Donc quand on parle d'amour, ça les concerne. Quand on parle du rêve, ça les concerne. Et puis quand on parle de la nature, de l'animal, etc.
Oui, je pense que l'intérêt de ces ateliers, c'est que ça donne vraiment la parole aux enfants. Et dans le système scolaire tel qu'il existe en France aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est... Bon, qui est pas très bien organisé, les enfants ont pas toujours la parole, et je pense qu'en fait, parce que Jean-Michel Blanquer disait qu'il fallait que les parents et les élèves disent aux enseignants qu'ils les aiment, mais je pense que c'est aussi important que les enseignants disent aux élèves qu'ils les aiment, et je trouve que c'est une manière d'aimer les enfants, de leur apprendre à qu'ils ont quelque chose à dire, en fait, en effet, sur ces questions qui les concernent, qui sont pas des questions fondamentalement différentes des questions qu'on peut avoir en terminale ou à l'agrégation, quand on fait de la philosophie vraiment un plus haut niveau. Et ça aussi, c'est une espèce d'égalisation, en quelque sorte, des paroles qui est très valorisante pour eux, et c'est très important pour leur propre construction.
Une objection à propos de ces ateliers de philosophie, toutes les familles ne sont pas dotées des mêmes ressources culturelles, sociales, du même capital économique et social, pour parler comme Bourdieu.
Absolument, mais pourtant, les enfants vont poser les mêmes questions. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, on a aujourd'hui les moyens d'aller, de peut-être essayer de trouver un atelier pour un enfant, ou bien de simplement chercher une ressource qui va permettre d'aborder une certaine thématique philosophique avec les enfants.
Mais au sein des familles, Aïdan Diaye, toutes les familles ne sont pas prêtes à accueillir cette parole et ce dialogue?
Non, c'est très, effectivement, je pense que c'est très inégalitaire. Je pense que tous les enfants ne vivent pas non plus la même réalité en classe sur la question de la tolérance. Il y a aussi plus ou moins de diversité. Bon, bah, moi, mes enfants, ils sont scolarisés à Paris dans le premier. Niveau diversité, on est quand même sur un niveau assez faible. Et donc, le rapport, par exemple, à la religion, typiquement, moi, c'est une question à laquelle les enfants sont pas du tout confrontés. Donc c'est pour ça que je disais, là, typiquement, il me semble que se mettre en relation avec l'école, savoir ce qui va être fait, essayer de chercher un soutien, et peut-être du coup glisser l'idée aussi à l'école, qu'on a besoin que l'école prenne en charge, là, ce qui va de toute façon, je pense, être fait à la rentrée, cette question-là, ça permet aussi aux parents, et j'ai envie de dire aussi beaucoup aux mères, parce que c'est aussi le problème, c'est souvent les mères qui ont la charge de cette responsabilité dans les familles, d'essayer de se décharger quand on n'a pas le temps ou pas les moyens de le faire tout seul. Et après, à l'inverse, c'est à l'école aussi d'essayer d'introduire ces pratiques pour les familles qui n'aimeraient pas avoir ce genre de discussion ou que ça n'intéresserait pas.
Les enfants peuvent nous poser leurs questions sur la vie, la mort, l'amour, l'univers, la nature au 01 45 24 7000, nous écrire sur l'application France Inter. Alexia Rivière et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé. À la technique ce matin, Serge Viguier et Kevin Pelot. À la réalisation, Stéphanie Texier. Programmation musicale, Muriel Pérez. Et je vous propose d'écouter Alain Souchon, J'ai 10 ans.
J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule.
Alain Souchon, j'ai 10 ans.
Au début, je me disais que c'était du sport, la philosophie, mais...
Grand bien vous fasse.
Je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée moi-même.
Sur France Inter.
10h30, philosopher avec les enfants, c'est ce que nous vous proposons ce matin en cette période scolaire. Les enfants et les parents également peuvent poser leurs questions au 01 45 24 7000. Tiens, Clémence nous demande si les contes n'étaient pas les premiers manuels de philosophie à destination des enfants. Fanny Bourillon, je rappelle que vous publiez 50 activités pour philosopher avec ses enfants.
Très probablement, hein, les contes sont pleins de richesses et de sagesse. Ils traitent de nombreux sujets, presque ils couvrent tous les sujets. Donc effectivement, je pense que les contes sont toujours des moyens. C'est pour ça qu'on philosophe aussi avec les enfants à l'aide de contes et à l'aide d'histoires, parce qu'ils nous aident à penser.
Aïdan Dia, je rappelle que vous avez publié « Je découvre la philosophie ».
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de, effectivement, de matière à réflexion dans les contes, et je dirais d'une manière générale dans l'imaginaire. On peut aussi traiter des questions avec des films, avec des petits ouvrages pour jeunesse. Donc, d'une manière générale, je trouve que se saisir de l'imaginaire. Moi, j'aime bien les films parce que je trouve que on vit. Enfin, il y a des films, je sais pas, les films de, par exemple, de japonais Osoda, qui sont Le garçon et la bête ou Les enfants loups. On vit une expérience incroyable, c'est des films magnifiques. Chacun, moi et mes enfants, du coup, on a un niveau de lecture différent. Et à la fin, on peut en discuter. Et on a quand même partagé aussi une œuvre. Donc, d'une manière générale, d'ailleurs, c'est rigolo, mais l'imaginaire, ça invite à réfléchir et après à se poser des questions qu'on peut traiter de manière un peu plus rationnelle.
Tiens, une question de Marion. Un petit témoignage en relation avec votre émission. Un matin d'hiver, alors qu'on partait à la crèche, mon fils de tout juste 3 ans me dit « Maman, pourquoi les étoiles ?» Il faisait nuit, le ciel était débarrassé de tous ces nuages et les étoiles scintillaient. J'ai été incapable de répondre à cette question qui dépassait clairement le rôle et l'état d'une étoile. Et finalement, mon silence a probablement laissé place à un moment entre philosophie et poésie. Fanny Bourillon.
Merci. C'est très bien. C'est une très belle expérience qui est racontée ici, parce que effectivement, quand on regarde le ciel et qu'on observe le ciel, on est dans une forme de contemplation qui est peut-être la plus immense et la plus inquiétante qui soit aussi, et qui c'est une expérience esthétique de regarder l'immensité du ciel. Alors pourquoi les étoiles? C'est une question qui évidemment invite avant tout à s'observer soi sur Terre, là où on est, et à revenir à cette place qui est la nôtre, puisqu'on ne peut pas tout à fait, pas encore, quitter cette planète, et donc à observer peut-être et à contempler la beauté du ciel.
Aïdan Diaye.
Oui, moi je pense que en effet, j'ai oublié le nom de l'auditrice, mais qui parlait de la poésie.
Marion.
Il y a en effet cette beauté dans la contemplation, et je trouve que ça pourrait être aussi intéressant d'essayer de faire un espèce de va-et-vient entre cette beauté et puis l'explication, ou en tout cas aborder l'idée qu'il y a une nature dont on ne connaît pas forcément très bien l'origine, que c'est le propos de la science aussi, et qu'on navigue dans notre rapport justement à ce ciel entre les deux, entre une espèce de connaissance et puis la beauté quand même du ciel étoilé.
Et je suis persuadé que le nouveau podcast de Mathieu Vidard, Olma, répondra à cette question. Pourquoi les étoiles?
Alors, quelles sont pour vous les grandes questions que vous vous posez sur la vie?
Ça sert à quoi le maquillage?
Je suis pas certain que ce soit un philosophe qui te répondra à ça. C'est une bonne question. Alors, Ben Hamar.
Pourquoi on est comme ça?
Pourquoi on est comme ça?
Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Exactement, je veux dire pourquoi on existe.
Pourquoi on existe? Lorenzo.
Pourquoi on meurt?
Pourquoi on meurt? Voilà une très belle question philosophique. On va commencer par ça. Essayez de dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Anaïs.
Moi, c'est ma famille.
C'est ta famille. Donc le plus important dans la vie, c'est la famille. Et pourquoi?
Parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, ça nous fait de la peine.
Oui. Ben Hamar.
Moi, le truc l'important de la vie, c'est que on s'entend.
C'est de bien s'entendre.
Oui.
Donc c'est la relation avec les autres le plus important. Anaïs.
Moi, le plus important, c'est d'être vivante.
Le plus important, c'est d'être vivante. Est-ce que le seul fait d'être vivante, ça te rend heureuse?
Oui.
Extrait du documentaire Le Cercle des Petits Philosophes de Frédéric Lenoir et Cécile Dangean en 2019. Fanny Bourillon, évidemment, la question de la mort est fréquemment posée par les enfants dans vos ateliers de philosophie.
Oui, elle revient souvent. Et à la fois, les enfants n'ont pas peur de poser des questions, non seulement... ils n'ont pas peur de questionner ce que c'est que la mort, et bien moins peur, finalement, que nous, d'en parler. Ils comprennent qu'il y a une nature mystérieuse. Il y a quelque chose de mystérieux dans la mort. C'est ce que disait le philosophe Yankelevitch quand il disait il y a trois choses ineffables, la musique, le temps et la mort. On n'arrive pas à en parler véritablement, à dire ce que c'est, puisque on n'en a pas une expérience, si ce n'est par la mort des autres, par la mort de nos proches ou par la mort des autres. Voilà.
Évidemment, Aydan Diaye, la réponse que l'on donne à la question de la mort est différente face à un enfant de 5 ans et face à un préadolescent de 12 ans.
Oui, ça dépend en effet de l'âge de l'enfant, et je pense que ça dépend aussi de ce qu'il questionne à travers la mort, parce que ça peut être justement là, puisque c'est le contexte, l'irruption de la violente, enfin si c'est la mort de la violence, pardon, la mort violente, ça peut être la question de la perte en fait, ou la question du rapport au temps. Donc je pense que, enfin moi quand je fais des ateliers, j'essaye aussi de voir exactement ce qui suscite la question en fait. Pourquoi est-ce que l'enfant se pose cette question-là, alors pour le coup sur les plus petits, parce qu'en effet un enfant de 12 ans, on comprend bien pourquoi il se pose la question de la mort, mais un enfant petit de entre 3 et je sais pas 5 6 ans, si cette question elle arrive à un moment, c'est que il y a une raison en fait qui l'amène à se poser cette question-là, et je trouve que voilà, on va pas forcément traiter différemment la question de notre finitude et la question de ce qu'on fait nous vivants, par exemple des gens qu'on perd.
Et oui, il y a beaucoup d'incertitudes dès qu'on parle de la mort, puisqu'il y a à la fois l'incertitude quant à savoir ce que c'est et aussi à savoir quand. Donc les enfants partagent cette inquiétude que nous avons à l'égard de la mort, et pourtant on s'en réfère encore, et là souvent dans les ateliers, je pense, hein, avec Épicure à nouveau, hein, qui disait qu'il était important de penser à quel point la mort n'est rien pour nous, dans la mesure où nous ne l'éprouvons pas.
Les enfants comprennent très tôt dans vos ateliers ce qu'est la finitude.
La finitude, alors le mot, s'ils sont tout petits, c'est difficile, bien entendu. Mais dès qu'on leur explique être fini, le fait qu'il y ait une fin tout simplement à la vie, ça ils le comprennent assez tôt, oui, assez tôt.
Comment vous leur expliquez ce mystère? Comment admettre que nous ne verrons plus quelqu'un que nous aimons?
La perte d'un proche, c'est vraiment l'épreuve du deuil. Donc admettre que quelqu'un que nous avons aimé, on ne le reverra plus, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et pourtant c'est nécessaire si l'on veut continuer à vivre. Donc il en va de la continuité des choses, d'accepter que nos proches, les personnes qu'on aime et que l'on chérit, disparaissent. Donc dans les ateliers, il arrive tout simplement que l'on parle de... du fait que c'est important d'éprouver le chagrin. C'est important d'éprouver ce chagrin et d'en faire peut-être quelque chose aussi.
Gilles Verviche, je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie.
Oui, merci, c'est gentil. comme tout le monde. Oui, sur leur portage, ce qui était étonnant, c'est qu'on demande aux enfants quelles questions ils se posent, et on a vu que c'était tout de suite des questions philosophiques. Pourquoi je suis là, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie. Donc quand les gens nous disent je suis pas fait pour la philosophie ou la philo c'est pas fait pour moi, on se rend compte qu'ils sont tout de suite sur des questions philosophiques, métaphysiques. Voilà. C'est assez étonnant ça. Et après, sur la question de la mort, effectivement, moi j'ai une petite, hein, où j'essaye de lui demander à 4 ans. Alors c'est quoi la mort? C'est quand on a trop dormi, elle me dit. Je sais pas s'ils se rendent bien compte, parce que quand on dit les enfants, ça dépend quel âge, hein, entre 5 et 10 ans, c'est pas la même chose. L'autre jour, elle a passé 10 minutes à regarder un pigeon mort. Donc voilà, c'est une bonne manière aussi. Elle dit, oh c'est triste, va mourir. Elle essaye en fait. En fait, les enfants se posent la même question que nous. Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a quelque chose après? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on est mort? Voilà. Et donc, je sais pas effectivement si les adultes ont la réponse, mais je pense qu'elle est en train, à cet âge-là, ils se demandent finalement qu'est-ce que ça veut dire de mourir. C'est pas forcément... ils se demandent si c'est triste.
Aydan Diaye.
Oui, je pense que En tout cas sur la question de la perte, donc en effet il faut apprendre aux enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, à éprouver leurs émotions et donc à ne pas masquer le chagrin. Mais à mon avis, et ça pour le coup à tout âge, il peut aussi avoir un travail qui peut être fait sur, bien sûr, sur la mémoire, sur le souvenir, sur le partage en fait de ce qu'on a vécu avec la personne ou l'animal domestique qui nous, ou l'ami, enfin voilà, quelle que soit la personne qui est décédée. Et là encore, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des variations d'âge, mais il va aussi avoir des variations de situation. Enfin, il y a des enfants qui traversent toute l'enfance sans jamais vivre le deuil, en fait.
Fanny Bourillon, comment un enfant peut-il comprendre la célèbre phrase de Montaigne, « Philosopher, c'est apprendre à mourir » ?
Alors, cette phrase, elle est magnifique et elle est héritée des philosophes stoïciens. Montaigne a lu les stoïciens et pour les enfants, ça peut évidemment, et souvent ils peuvent avoir un mouvement de recul. Ah, pourquoi philosopher alors que je viens peut-être avec eux de discuter du fait que la philosophie c'est le dialogue, c'est construire aussi une pensée. Pourquoi là tout à coup Montaigne dit c'est apprendre à mourir ? Eh bien parce que, alors souvent je leur explique qu'il y avait dans cette philosophie de Montaigne et des stoïciens le fait de penser la mort un peu comme vraiment un pense-bête. Il faut se rappeler que nous allons mourir pour justement agir différemment et pour régler notre action sur l'instant et pour aussi profiter de la joie que nous offre chaque instant de la vie. Donc la mort est aussi importante pour nous rappeler à notre condition humaine qui prend fin.
Bonjour Elisa, bienvenue.
Bonjour.
Quel âge as-tu ? Je me permets de te tutoyer, Elisa.
Je vous en prie. J'ai 9 ans.
9 ans. J'ai 10 ans. 10 ans. Comme dans la chanson d'Alain Souchon. As-tu une question pour nos profs de philo autour de la table ce matin ?
Oui. J'aimerais savoir pourquoi on devrait obéir aux lois si on est libre ? Enfin, parce que... Pourquoi on nous a imposé des lois, vu qu'on est libre ?
Ah ben ça, c'est une question d'actualité, ma chère Elisa. Aïdan Diaye.
C'est une très belle question, Elisa, merci. Et je trouve que d'ailleurs, c'est rigolo, parce que cette génération, quand même, je trouve là, alors Elisa, tu dois pas encore être au collège, mais des grands de primaire et de collège, c'est quand même une génération qui questionne énormément les normes sociales, le rapport au pouvoir. Dans le fond, je suis pas très surprise que tu poses cette question. Et alors, en fait, pour répondre à ta question, ce qu'il faut que tu te demandes, je pense, c'est ce qui se passerait s'il y avait pas du tout de règles, en fait. Si par exemple il y avait personne qui empêchait tes voisins de faire du bruit toute la nuit et de t'empêcher de dormir.
Elisa ?
Oui, s'il n'y aurait pas les lois, on pourrait faire tout ce qu'on veut, mais du coup il y aurait beaucoup de problèmes parce que si tout le monde s'exprimait en faisant tout ce qu'on voudrait, ça serait un peu le bazar.
Un petit peu sans doute, ouais. Ben voilà, donc du coup, tu vois, tu comprends un peu que les lois, elles nous protègent aussi un petit peu. Elles nous empêchent d'être libres par certains côtés, mais elles nous permettent aussi d'être libres parce qu'elles empêchent aux autres de faire des choses qui nous empêcheraient, nous, de faire ce qu'on veut.
Gilles Verviche, à la question d'Elisa.
Oui, c'est évidemment d'accord avec Aïda. Comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Aïda connaît bien, mais Elisa pourrait se demander ce qu'elle ferait si elle avait un anneau qui la rendait invisible, comme un certain Gigès à l'époque de Platon. On peut penser aussi à Bilbo le Hobbit chez Tolkien. Donc voilà, et on se dit que si on était sûr de pas être puni, on ferait peut-être du mal aux autres, peut-être, pas sûr.
Pas sûr.
Maintenant, on se réveille pas tous les matins avec des envies de meurtre.
Merci. Aïdan Diaye.
À ce propos, j'ai une anecdote quand même assez saisissante parce que j'ai vu en fait des gens qui ont fait des ateliers et qui ont demandé aux élèves de 6e ce qu'ils feraient donc s'ils étaient invisibles, en reprenant en effet l'anneau de Gigès, et en fait la première chose que beaucoup disent, c'est j'enlèverai mon masque, en fait.
Merci beaucoup Elisa pour ta question, et comme Elisa, vous pouvez appeler le 01 45 24 7000. En attendant, on écoute Les choses presque vues d'Éric Libio, qui n'a plus 10 ans.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
psychothérapeute.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Ça, je vous assure, il n'est pas psychothérapeute.
Je ne suis pas grand-chose, mais...
Éric Libio.
Que les choses soient claires, Ali, je suis nul en philo. Je l'ai toujours été, et en hiver également. J'ai passé deux fois le bac et j'ai obtenu à chaque fois la note de 5 sur 20.
Vous êtes constant.
Oui, c'est exactement ça. C'est une constance certaine, donc, qu'il est possible de voir comme une qualité et l'expression d'une sincère modestie face à un domaine si important. Mais tout ça ne m'a pas empêché d'aller voir l'exposition Pierre Dac au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Exposition d'ailleurs dont France Inter est partenaire. Alors pourquoi Pierre Dac? Eh bien parce que Pierre Dac est mon philosophe préféré. Alice, sachez-le, Pierre Dac, humoriste, soldat de la Grande Guerre, résistant, prisonnier du régime de Pétain, voix de Radio Londres à côté de De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui sait ce que c'est que la barbarie? Pierre Dac, partenaire de Francis Blanche et créateur de L'Os à Moelle. Maître du non-sens et du sens giratoire que Raymond Devos a su réinventer quelques années plus tard. De l'absurdité de la vie, Albert Camus a construit une œuvre célébrée par le prix Nobel. Pierre Dac, lui, a écrit des sketchs loufoques et des pensées extrêmement drôles, ce qui est très bien aussi et même essentiel. Parce que l'humour, c'est une façon de résister à la barbarie et Pierre Dac le savait parfaitement. Oui, Pierre Dac est mon philosophe préféré et j'aurais aimé qu'il soit au programme de Terminal pour disserter par exemple sur cette phrase. Avec de la méthode et de la logique, on peut arriver à tout aussi bien qu'à rien. D'ailleurs, on pourrait également étudier Pierre Dac beaucoup plus tôt au collège ou à l'école primaire et rappeler aux enfants qu'il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents, une façon de comprendre l'importance des mots. Alors oui, apprendre la philosophie aux petits, c'est une bonne idée, vous en avez parlé depuis tout à l'heure. Mais à l'époque, ça n'existait pas dans les années 60, quand moi-même j'étais à l'école primaire. Et Monsieur Cloirec, au cours préparatoire de l'école de Kirichène à Brest, nous lisait tous les vendredis en fin de journée le mystérieux docteur Cornelius, le roman de Gustave Lerouge. Et c'était très bien aussi des aventures du romanesque, du suspense, du mystère. Toutes choses presque vues qui permettent de croire à la puissance de l'imaginaire. L'imaginaire, vous savez Alice, c'est ce monde qui pousse à se connaître soi-même pour aiguiser son esprit critique. Et l'humour est aussi une façon de plonger dans l'imaginaire. Et je reviens donc à Pierre Dac, qui a notamment publié un recueil de pensées, comme l'ami René. Et justement, il est grand temps de rebattre des cartes. Voici donc quelques-unes des pensées de Pierre Dac, dont la portée philosophique n'échappera à personne, sur la justice par exemple. En bonne justice, il est rare qu'une cause perdue soit jamais retrouvée. Sur l'objectivité, on croit souvent qu'un appartement est bas de plafond alors qu'il est tout simplement haut de plancher. Alors ça marche pas forcément avec les gens. Quelqu'un qui est bas de plafond n'est pas forcément haut de plancher. Ce qui m'amène à cette pensée de Pierre Dac, toujours sur la nature humaine. Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous. Enfin, une pensée sur cette chronique. La recette d'un bon discours, c'est une très bonne introduction, une très bonne conclusion et les deux le plus rapprochés possible. Donc en conclusion, j'aimerais proposer ce sujet de dissertation pour le bac 2021. Alors c'est de moi, je suis désolé. Ce qui est sérieux n'est pas forcément intelligent et ce qui est drôle n'est pas forcément futile. Oui, je suis Pierre Dac, comme je suis Charlie, je suis prof, je suis l'humour et la liberté d'expression.
Et vous pouvez réagir à la chronique d'Éric Libio sur l'application France Inter et vous pouvez courir à l'exposition Pierre Dac au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Ça a commencé et ça se termine le 28 février 2021. Exposition Pierre Dac, hommage. Et bien dans un instant, on va s'intéresser à l'amour. Et en attendant, et bien on écoute le nouveau titre de Loudoyon, Claim Me.
I've been running around, looking for me in town, hoping for something to sparkle my mind. Cause I've been out of touch, lost within, bought without. I sit chain smoking, I am to the bars. Yes, my laugh has turned fake, and my tears have turned dry. But my bluff is so fine, no one takes the time. But you were as fine, come crying me. Yes, you were eyes flat and come crying out. I've been killing my time for too long, but now I don't even know
without a catch. Back was the flow right now. Nothing feels right and I'm glued to the floor. And everything I try, I did better before. So I do and undo myself over name. I tear off the mask and I put up with the fame. But you sure as fly and come climb the hills. You sure as fly and come climb the hills. Come climb the hills. Come climb the
Doyon interprété Claim Me.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h51, philosophie avec des enfants, c'est ce que nous vous proposons ce matin en cette période scolaire. Les enfants peuvent poser leurs questions sur la vie, l'univers, la nature, l'amour et la mort au 01 45 24 7000.
Je me souviens de ma première vision mystique. J'allais par les bois en pensant au Christ, me demandant combien il prendrait pour faire une étagère, lui qui était charpentier, lorsque...
Qui êtes-vous ?
La mort.
Mais après la mort, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un paradis ? Est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'on peut ressusciter ? Bon, je ne vous poserai qu'une seule et unique question. Est-ce qu'on rencontre des filles ?
Tu es un garçon très intéressant. On se reverra un jour.
Oh, j'ai tout mon temps.
Moi aussi.
Extrait de Guerre et Amour de Woody Allen en 1975 et nous accueillons Maud. Bienvenue Maud.
Oui, bonjour.
Vous appelez de l'Allier.
Voilà, c'est ça, j'appelle de l'Allier pour simplement relater une petite réflexion de mon petit-fils qui s'appelle Noam, mm-hmm. qui lorsqu'il avait 4 ans et demi, était donc de planter devant un feu de bois. Et l'air extrêmement rêveur, et à un moment donné, il lève la tête, et il me regarde, et il me dit, c'est quoi la différence entre l'univers et l'infini?
Et qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Eh ben, je lui ai dit, écoute, là, tu me sèches, je ne sais pas répondre à ça, je vais réfléchir, et je vais t'en parler plus tard.
Et vous savez quoi, Maud? On va poser la question à notre philosophe Gilles Verviche.
Ça m'aiderait oui. beaucoup.
Oui, ça tombe sur vous, Gilles.
Merci, c'est très très sympa. Alors, j'y pensais, j'étais en train d'y penser. Alors évidemment, il y a des différences. Je me demande si l'univers n'est pas un bon moyen pour saisir quand même l'infini. Parce que l'infini, c'est quand même quelque chose qui est difficile, voire impossible à comprendre, y compris pour les adultes. Et par exemple, moi, avec mes élèves, quand je commence à leur dire que cette Terre qu'on croit au centre du monde, en fait, n'est que dans un endroit d'un univers qui est des milliards d'années-lumière, etc. Enfin bref, l'univers, finalement, est un bon moyen pour saisir l'infini. Ouais. Voilà, de le rendre un peu plus concret.
Fanny voilà. Bourillon.
Ouais.
Oui,
Fanny Bourillon.
Quand on pense à l'univers, on pense à l'infiniment grand. Donc on pense à ces espaces infinis dont parlait Pascal aussi, le philosophe Pascal. Et donc évidemment que là, la question c'était quelle est la différence, hein, c'est ça, entre l'univers et l'infini. C'est drôle parce que ce sont des questions que se sont posées les philosophes présocratiques il y a très longtemps. On se posait déjà ces questions-là et toujours, aujourd'hui, on se demande quelle est la forme de l'univers. Est-ce que l'univers est fini ou infini? Les débats sont toujours présents. Donc répondre à une question comme celle-là, c'est impossible. Et peut-être qu'on est en train d'essayer de répondre à des questions impossibles.
Aïda Ndiaye.
Bah oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que dit Gilles, c'est-à-dire que l'univers, c'est une bonne manière de saisir l'infini. Après, il peut y avoir plein de choses qui sont infinies et qui ne sont pas l'univers, comme je sais pas, l'amour par exemple qu'on peut avoir pour son petit-fils. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que Maud a eu aussi un bon réflexe de dire à son petit-fils qu'elle allait prendre le temps de réfléchir, parce que c'est aussi important d'apprendre aux enfants que face à certaines questions, il faut du temps en fait pour construire une réponse.
Merci beaucoup Maud de nous avoir appelé. On termine avec cette question tout de même. Peut-on vivre sans aimer? Question que vous posez dans votre livre, Fanny Bourillon.
Oui, et que je pose régulièrement à des collégiens, à des enfants. Et souvent, ils lèvent tous la main et puis ils sont bien persuadés qu'il est impossible de vivre sans aimer. Ce qui nous permet de, En tout cas, la question « peut-on vivre sans aimer ?» nous interroger sur le lien qu'il y a et la, finalement la nécessité qu'il y a lorsque nous vivons d'aimer. Et voilà, quelle est...
C'est la question du lien que vous posez dans votre livre.
La question du lien, la question des attaches, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a pensé aussi une petite partie créative où on les invite avec des fils de laine à noter et à écrire des petits mots qu'ils collent. Et qui représentent toutes les choses qu'ils aiment et aussi les êtres qu'ils aiment, puisque, effectivement, avec l'amour, il y a l'idée de l'attache.
Qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui vous pose cette question, Aïda Ndiaye ? Peut-on vivre sans aimer ?
Bah, la réponse est non, voilà. Donc, non, moi, je pense qu'effectivement, c'est, enfin, évidemment, comme l'a déjà dit Fanny d'ailleurs, important de montrer la diversité des formes d'amour. Et notamment, bon, chez les petits-enfants, c'est vrai que le lien amical est très puissant. Pour moi, c'est évident que c'est comme l'a dit Fanny, c'est une forme d'attache, c'est montrer aux enfants que en fait l'amour est une source de stabilité, c'est important d'aimer et d'être aimé aussi d'ailleurs pour s'ancrer en fait dans son existence.
J'ai eu une fois lors d'un atelier une réflexion, je voyais qu'il y avait une élève qui réfléchissait vraiment et elle a pris la parole en me disant c'est possible peut-être de ne pas aimer. Mais dans ce cas, la vie n'aurait aucun sens. Et donc, elle m'a fait une proposition, supplémentaire à ce que là où on en était dans le fil réflexif, et elle donc elle ajoutait, il y avait une valeur ajoutée avec l'amour dans la vie puisque ça donnait du sens aux choses.
Dernière question de Marie-Laure Zonshine. Oui, dernière minute.
On l'a entendu avec ce que nous a dit Elisa, le petit Noam. On voit aussi, et il y a des études scientifiques qui le disent clairement, au-delà de l'apport de la philosophie, c'est un gain énorme pour l'enfant, pour sa construction. La perception des autres, le vivre ensemble, le respect d'autrui, même l'acquisition des mathématiques et des langues plus tard, la prévention de la violence, nous dit l'UNESCO, c'est-à-dire que ça va bien au-delà, finalement, de cette réflexion que vous suscitez auprès des jeunes, ce questionnement permanent.
Aïda Ndiaye.
Oui, c'est évident et je pense que d'ailleurs sinon on le ferait pas si petit parce que l'idée en faisant de la philosophie chez les petits enfants, c'est pas tant de les initier à la philosophie, mais c'est de les initier à tout ce qui fait société et tout en effet les bénéfices qui individuels, comme je le disais tout à l'heure, en confiance en soi, en estime de soi, grâce à la pratique de ces ateliers.
Merci beaucoup Fanny Bourillon. Vous avez coécrit 50 activités pour philosopher avec ses enfants. Merci Aïda Ndiaye. Je découvre la philosophie à destination des tout petits, c'est publié chez Nathan, merci Gilles Verviche. Pour les plus grands, je vais le filer à Éric Ribiot, comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi. Demain, on fête la langue française avec Jean-Loup Chifflet et Jean Pruvot. Nous verrons ce que le français doit à l'anglais et vice-versa. Et puis, nous nous amuserons de quelques curiosités de notre langue. À demain.